Souvent, les femmes agriculteurs, pendant de nombreuses années, ont été considérées comme l'ouvrier qu'on ne paie pas.
Bienvenue dans l'émission « Elle est où la patronne ?». À travers cette émission, CFM Radio souhaite vous faire entendre les enjeux qui existent lorsque l'on est une femme dans le milieu agricole, encore majoritairement masculin aujourd'hui. Le quotidien, les difficultés, mais aussi les joies que cela représente. Cette émission s'intitule « Elle est où la patronne ?», car bien souvent, c'est un homme qu'on cherche sur une ferme sans se demander si une femme peut gérer à part entière une entreprise agricole. Aujourd'hui, je vous embarque chez Aurélie Ballaran, qui est viticultrice à Sainte-Croix, sur le Gaillacois, dans le Tarn. Elle est en EARL avec sa mère et elle s'occupe de deux domaines, le domaine d'Escos et le château L'Enclos des Roses.
Donc je suis la génération numéro 7 pour produire du vin dans la famille et numéro 3 pour la bouteille. Et j'ai eu l'opportunité en 2007 d'acheter des vignes à 20 km de chez mes parents. Et on a, au lieu de marier les vignes avec celles de mes parents, qui était le domaine d'Escos, on a fait le choix de créer une deuxième marque qui s'appelle le Château L'Enclos des Roses, voilà, pour pouvoir séparer les terroirs.
Et avant de t'installer donc avec tes parents en EARL, ici, est-ce que tu as fait autre chose ?
Donc moi j'ai fait mes études, j'ai fait un bac S à Font-Labour. Après j'ai enchaîné avec un BTS viticulture œnologie à Bordeaux, à Blancafort. Et j'ai fini avec un diplôme d'œnologue à Toulouse. Donc en fait, pendant tout mon cursus, j'ai fait des stages. Et quand j'ai fini mes études de diplôme d'œnologue, je suis arrivée sur l'exploitation. J'ai bossé avec mes parents pendant 2 ans. Et après, on a eu l'opportunité du coup, d'acheter ces vignes sur Cahuzac en 2007.
Et du coup, ça permettait de faciliter ton installation
Ça permettait de faciliter l'installation. Mes parents étaient fermiers sur la commune. Et donc ça nous a permis en fait de switcher les surfaces en fait, que mes parents avaient un temps en fermier pour passer en propriété. C'était quasiment un peu le même prix, donc c'était pas du tout intéressant de continuer le fermage.
Vous avez combien d'hectares en tout ?
47 hectares de vignes, plus 53 de céréales. Et tout ça sur du bio, du HVE et du conventionnel en partie pour les céréales.
Et vous transformez l'entièreté de votre raisin en vin ?
Oui, sur la ferme. Donc nous, on a un statut aussi de cave particulière, donc on transforme tout de A à Z. On gère du pied de vigne jusqu'à la vente de la bouteille, où on met la bouteille dans le coffre du client. Donc voilà, donc on fait tout d'un bout à l'autre de la chaîne. Je bosse avec ma mère, mon père, j'ai bossé avec mon père, donc du coup, jusqu'à ce qu'il prenne la retraite il y a 3 ans. Et maintenant, lui est passé salarié, et avec ma mère, on est toutes les deux co-gérantes.
Avec, j'imagine, des salariés qui gravitent autour de vous.
On en a 5, je crois, actuellement, plus les saisonniers. Donc, on a en moyenne 12 unités temps plein, avec la vendange manuelle, la taille, enfin voilà, toutes les étapes qui demandent beaucoup de main-d'œuvre.
Alors, parle-moi un peu de ton quotidien. Qu'est-ce que c'est ton quotidien ?
Mon quotidien, pour
en
moi...
En fonction des saisons aussi,
en fonction, c'est, alors, donc le gros avantage de ce boulot, c'est que tu fais à peu près jamais le même boulot tous les jours. C'est un boulot où il faut être multitâche. C'est-à-dire que si tu veux faire que de la cave ou que de la vigne, c'est foutu. Il faut accepter de faire beaucoup de bureaux. C'est 50% de mon temps, moi, c'est de l'administratif.
Ah ouais, autant.
Ouais. Ben c'est le problème d'avoir autant de salariés, autant de surfaces de vignes. On fait 220-250 000 bouteilles par an. Il y a beaucoup de législation autour du vin. Donc ça génère beaucoup de temps. Beaucoup d'administratifs par rapport à la relation client. Donc voilà. Donc ça demande quasiment... Moi, ça me demande quasiment un mi-temps. Et après, ben, je reçois les gens au caveau. Je fais donc du coup de la vente. Je vais être pendant les vendanges. Là, c'est les 3 mois où je suis à la cave et quasiment pas au bureau. Donc là, c'est là où on s'amuse le plus.
C'est toi qui gère toute la vinification ?
Non, alors je ne gère pas. Je bosse avec mes parents, avec mon père, ma mère. On a des œnologues externes qui nous suivent. Enfin voilà, on n'est surtout pas en vase clos.
D'accord.
Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de produire du vin avec des œillères et des lunettes déformantes. Donc voilà, donc nous, on apprécie énormément en fait, d'avoir des personnes de l'extérieur qui viennent nous voir, qui goûtent nos vins. On échange beaucoup pour avoir une ouverture d'esprit qui est nécessaire en fait, pour se tenir à la page. Parce qu'en fait, si tu es tout le temps dans la tête dans le guidon, ben, tu ne vois pas ce qui arrive. Enfin, voilà, cet effet tunnel, on essaye de l'éviter avec un contact sur l'extérieur.
C'est quoi ce que tu préfères faire ?
Moi, c'est la vinification. C'est la partie la plus amusante. C'est là où tu joues au petit chimiste. Tu t'embrouilles, tu fais la sorcière. Enfin, c'est vraiment la partie la plus marrante.
Et c'est stressant aussi, non ?
C'est stressant parce qu'en fait, tu peux pas corriger le tir. C'est là, maintenant. Et il faut surveiller, essayer de deviner comment ton vin va évoluer. Après, c'est comme des gosses. On élève les vins, donc c'est pas pour rien qu'on les élève, hein, et on va les former, on va les adapter, on va les diriger pour aller vers là où on veut. Bon, après, t'en as certains, tu pensais pas que ça finirait en premier de la classe, ça finit quand même en premier de la classe, et celui que tu pensais être un bon élève finira en grand cancre. Donc il y a rien qui est acquis, et c'est ce qui est marrant dans ce boulot et qui est le plus intéressant, c'est que tous les ans, on rebat les cartes et on repart. T'es obligé de refaire la même chose, mais jamais avec le même jeu. Donc c'est une remise en cause permanente.
On va parler un petit peu donc de la place des femmes dans le milieu agricole et du coup de ce que toi tu vis en tant que femme dans ce milieu-là, qui est un milieu plutôt masculin. Globalement, toi, dans ton métier d'agricultrice, le fait que tu sois une femme, tu le vis comment ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus dures que d'autres ?
Alors, le regard extérieur, bah, comme dans tout boulot, je pense, quand tu es une bonne femme, bah, tu pars pas avec des points d'avance. T'es obligé de prouver un peu plus que les copains. Donc moi j'ai jamais eu ce ressenti avec mes parents du fait qu'il y ait que des filles à la maison, donc ça il n'y a pas de souci. Mais des fois le regard extérieur ou les petites piques, les petites phrases, pour l'anecdote, hein, moi quand je me suis installée, première vinif que je fais, on fait une dégustation avec d'autres vignerons du Gaillacois et on était deux vitis à s'installer cette année là et tous les deux on porte nos bouteilles à cette dégustation. Donc lui, il fait goûter les bouteilles en premier aux autres vignerons qui disent « Ah ben c'est bien, l'élève va dépasser le maître en parlant de son père avec lui, enfin voilà la relation. » Et moi, quand je fais goûter mes vins, il déguste et on me dit « Ah ben ton père a bien vinifié. » Donc là, tu fais « Ok. » Donc ces gens-là, ben, tu te dis « Il va falloir leur prouver encore plus que je peux m'en sortir toute seule et que si on a fait des vins dans ce style, c'est pas que mon père qui les a fait. » Je les ai fait avec lui, on a bossé ensemble. En tant que fille, en tant que femme, je vais bosser avec lui. J'ai bossé sur des cuvées toute seule. Sur les cuvées que j'ai vinifiées, moi, chez mes parents, personne n'est allé dire à mon père bah, « ta fille a bien vinifié ». Donc, en fait, c'est un boulot de famille. Donc, il faut aussi prouver un peu plus que les autres ce qu'on peut faire.
Est-ce que tu te sens prise au sérieux maintenant ? Après toutes ces années d'expérience quand même que tu as installé depuis 2007.
Ouais, depuis 2007. Alors, de toute manière, plus tu prends de la bouteille, plus tu es pris au sérieux. Et puis, voilà, la différence, c'est qu'à 25 ans, bah, tu n'arrives pas à dire non. Qu'à 40 passé, bah, là, le non, en fait, c'est comme ça, c'est comme ça. En vieillissant, on affirme les choses beaucoup plus facilement. Et on sait ce qu'on vaut beaucoup plus. Qu'à 25, quand tu commences, tu as fait 4 vinifs à l'école. Enfin, tu ne peux pas dire que tu connais le boulot. Tu
n'as pas forcément confiance en toi.
Non, tu n'as pas confiance en toi, tu ne connais pas le boulot. Et puis même 20 millésimes plus tard, tu ne connais toujours pas le boulot. C'est un boulot en fait, tu te remets en cause en permanence. Donc tu as des connaissances, tu as des super balises qui te permettent de contourner les problèmes ou de t'adapter. Mais tu ne peux pas dire que tu as fait le tour de la question. On bosse avec du vivant, donc tu ne peux pas avoir fait le tour de la question en deux coups de cuir à peau.
Et du coup, avec cette bouteille que tu as pris, j'imagine que tu arrives mieux à dire non, et tu arrives peut-être mieux à dire merde. Est-ce qu'il y a des choses, des phrases que tu ne peux plus entendre, et que du coup, là, maintenant, tu te dis, ça, c'est mort, on ne le dit plus devant moi, en fait.
Oh, mais donc, la plus belle phrase, c'est « on veut voir le vigneron, on veut voir le patron ». Et donc, mon père arrive et dit bonjour, et puis dit bon, ben, je vous laisse avec ma fille, elle est aussi capable que moi, bonne journée. Et là, les clients, ben, y en a certains qui se retrouvent avec moi. Donc après, en discutant, en échangeant, ils se rendent compte que ben, oui, en fait, je suis légitime, je peux parler du boulot. Ça, c'est le truc qui arrive classique. Encore classique. Et c'est aussi pour ça, l'ancien nom de l'entreprise, c'était Denis Ballaran et fils, donc mon grand-père et mon père. Et donc il y a quelques années, là, j'ai fait changer le nom de l'entreprise par Famille Ballarin, en fait, qui permet d'englober tout le monde. Et ça évite la phrase de « je veux voir Denis ». Ben, Denis est décédé, donc voilà, ça permet d'arrêter et de couper. Et ça laisse surtout la place aux nouvelles générations.
Toujours, elle est où la patronne ? L'émission de CFM Radio qui donne la parole aux femmes dans le milieu agricole. On est avec Aurélie Ballaran, viticultrice à Sainte-Croix, dans le Tarn. Aurélie fait partie d'une association, les Ailes Gaillacoises, un collectif de 28 vigneronnes.
Oui, donc l'association les Ailes Gaillacoises a été montée par une vigneronne dans le but de protéger les pigeonniers qui sont sur le vignoble de Gaillac. Donc les pigeonniers, historiquement, ont récolté la colombine. Donc c'est la fiente de pigeon et qui était utilisée pour fumer les vignes, donc amender, apporter de la matière organique et de l'azote. C'était un engrais avant l'heure. Enfin, c'était un engrais. Et il y avait une relation en fait avec les femmes où les sacs de colombine faisaient partie des dotes. Oui. Il y a très longtemps. Donc du coup, il y a une association de vignerons qui s'est montée pour protéger ces pigeonniers. Tous les ans, on organise un événement dans le but de sauvegarder un pigeonnier. On organise un apéro-concert, une vente aux enchères qui est le moment le plus intense du week-end où les vignerons offrent des vieux millésimes ou des cuvées spéciales et tous les bénéfices de la vente aux enchères sont reversés pour retaper un pigeonnier.
Okay.
Voilà. Donc après, il y a plein d'autres activités qui sont faites en lien avec l'asso. Et tout au long de l'année, on se retrouve avec les filles et c'est le gros avantage en fait, c'est que... On parle, c'est un lieu d'échange de
oui,
collectif
dire,
et de soutien.
Avez, voilà.
Donc voilà.
C'est un endroit d'échange entre vous, du coup,
ouais.
Autre que de préserver ces pigeonniers. Donc c'est très important.
Mais ça crée un relationnel, mmh. Des amitiés que on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu l'asso.
Mmh, mmh. Et du coup, des espaces de parole, de soutien, de quand je sais pas quand il y a des
ah de dialogue,
c'est
voilà.
Difficile,
et,
voilà.
Ouais, quand c'est difficile. Et puis on se rend compte qu'entre femmes, quand on a un souci, on attrape le téléphone beaucoup plus facilement.
Hmm. Vous osez en fait.
Ah oui, on ose beaucoup.
Dire oula ça va pas, j'ai besoin d'un.
Ça va pas, j'ai cassé tel matériel, j'ai besoin. Est-ce que quelqu'un est là pour me dépanner?
Mm-hmm.
Enfin voilà, il y a un réseau d'entraide qui est plus facile puisqu'on a nos groupes WhatsApp qui nous permettent de communiquer facilement.
On peut parler un peu de maternité.
On peut parler maternité. Donc les joies d'être agricultrice et avoir une envie, une drôle de lubie de vouloir faire des gosses au mieux tout ça, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Il vaut mieux faire les gosses quand on est salarié. Parce qu'en fait, quand t'es patron, ben, t'es soutenu faiblement. Donc on a le service remplat, où on a droit à 16 semaines de remplacement mater. Et en fait, le remplaçant ne fera jamais ton boulot. Parce qu'en fait, je vous ai dit, on est multitâche et le salarié qu'on va embaucher pour nous remplacer sera monotâche. Donc là, déjà, ça coince.
Donc toi, au niveau du congé maternité, ça a été compliqué.
Oui, mais en plus, moi, j'ai été la cassos du département où j'ai eu un accouchement préma. J'ai eu des soucis sur l'accouchement. Donc du coup, j'ai perdu 8 semaines de congé mater parce que je n'ai pas envoyé mes papiers en temps et en heure. Et donc, du coup, on m'a dit, ben, ton congé mater commencera quand la personne rentrera de congé après le 15 août. Donc, voilà. Et on te dit, ben oui, mais il fallait...
C'était en plein été.
C'était en plein été. J'ai eu la bonne idée d'accoucher début juillet au lieu du 18 août. Il fallait envoyer... Le jour où je devais envoyer les papiers, j'étais en service en réanimation. Donc, je pouvais pas franchement envoyer le papier. Et ça, la MSA, en fait, a rien voulu savoir. Donc après, j'avais pas forcément... J'aurais peut-être dû me battre. J'aurais dû peut-être faire autrement pour essayer de récupérer mes 8 semaines de congé mater.
En fait, t'avais pas l'énergie, quoi.
J'ai pas l'énergie. Enfin, quand tu passes par là où j'étais passée, très bien. Je prends les 8 semaines. Merci, au revoir, bonsoir. Et du coup, ça fait des gamins qui... Ça fait une gamine qui est dans une écharpe de portage et qui fait ses premières vinifs à 2 mois, à 2 mois. Mm. 2 mois et demi, même pas. Mm. Et elle est pas plus malheureuse.
S'il y avait un truc qui était à refaire, tu ferais comment ?
Je ferais les gosses avant de m'installer. Ça solderait beaucoup de problèmes parce que du coup, ça permettrait d'avoir un vrai temps en fait, pour élever les enfants. Après...
Tu t'es sentie pas très disponible pour eux ?
Non, pas disponible pour eux parce que quand tu fais les vinifs, que t'as un gosse dans l'écharpe, que tu montes aux échelles, que ton onologue t'engueule en te disant « tu vas me la noyer », tu vas la tomber dans une cuve, t'es pas disponible. Mais parce que, c'est ce qu'on disait, c'est la récolte se fait une fois par an. Donc, il faut être là le jour J à l'heure H. Si tu arrives avec une semaine, 15 jours de retard après les raisins ne t'auront pas entendu. Donc, en fait, enfant ou pas enfant, en fait, il faut quand même rentrer le produit de ta récolte, ton travail de 1 an, tu peux pas te permettre de louper. Moi, si je loupe ma récolte, je jette 1 an de travail. Et je jette 1 an de revenus après derrière. Donc, ça permet pas, en fait, de s'adapter à nos envies de femme ou de patronne. Mm. Il y a des priorités dans la vie, en fait. Mm. Et dans le taf. Après, et dans le taf, en fait, il y a des priorités. La récolte, c'est prioritaire. Après, l'avantage, c'est que janvier, février, mars, c'est la saison creuse. Donc là, ça permet de passer plus de temps avec tes gosses. Voilà, tu compenses, tu tamponnes et tu t'en perds d'un côté, de l'autre, en fonction des saisons.
Mmh. Ok. Et du coup, toi, s'il y avait un truc, par exemple, à imaginer pour mieux soutenir la maternité, les femmes dans leur maternité, dans le milieu agricole, tu penserais à quoi ? Si on peut faire aussi un peu de plaidoyer dans les interviews.
Un congé mat, oui, c'est ça, c'est le temps de congé maternité.
Il n'est pas assez long, quoi.
16 semaines, hein, on te donne le congé mater un mois avant, un mois et demi. Alors, je ne sais pas quelle est la législation actuelle, mais à l'époque, moi, c'était un mois et demi avant, tu pouvais le prendre.
Mais un mois et demi avant, est-ce que tu es suffisamment en forme pour porter tout ce que tu dois
non.
porter ? Est-ce que
moi, ma gosse, si elle est née en juillet, c'est qu'il y avait une raison. Hein.
Moi, c'est pareil.
Donc, ça fait une gosse qui sort plus tôt que prévu parce que quand tu arrives à la mater et que tu dis « j'ai perdu les os, je suis en train d'accoucher » et qu'on te demande de « vous êtes en arrêt depuis quand ?» et que tu regardes ta montre et que tu fais 28 minutes et que la sage-femme te dit gentiment, avec sourire et bienveillance « ah ben, vous l'avez cherché ?» T'es là, tu fais bon, ok.
C'est pas moi qui l'ai cherché, en fait. Je peux pas faire autrement.
On n'a pas. Enfin, ça, ils ont eu du mal, en fait, à entendre que. Mais là, c'est la partie médicale et la MSA, c'est que quand tu veux te prémunir d'un accouchement prématuré parce que tu sais que tu vas bosser beaucoup, et ça, c'est pas reconnu. Le deuxième, quand j'ai déclaré que j'étais enceinte à la MSA, j'ai demandé, en fait, à pouvoir. Me mettre en maladie, faire quelque chose en fait pour éviter d'avoir un deuxième préma, puisque j'avais déjà fait une préma, donc on savait où on allait. La MSA m'a dit, si vous faites un enfant prématuré, on vous assurera à ce moment-là. Mais j'ai dit, en fait, je suis en train de vous dire que je ne veux pas faire un préma. Je veux vous éviter de dépenser de l'argent, du service néonat, des accouchements loupés que j'arrive à faire. Et ça, la MSA a dit, non, mais non vous inquiétez pas, on va traiter le problème une fois qu'il sera installé. Et ça n'a pas loupé, ça a fait un deuxième qui sort à 8 mois. La MSA, effectivement, a été là. Mais c'est un peu idiot, en fait, de ne pas anticiper. Alors que tu sais que médicalement, tu as des facilités à faire des prémas et à avoir des soucis. Donc je trouvais dommage, en fait, que ça, la notion de prématurité... au niveau de la MSA et du service médical, soit pas pris plus en compte. Et après, au niveau service médical, au niveau des sages-femmes, c'est de reconnaître en fait que quand tu es agri, on n'est pas assise derrière un bureau. Donc en fait, quand tu dis à 3 mois que tu as des contractions et qu'on te dit non, mais vous savez pas ce que c'est, si, si, en fait, les agricultrices sont moins, je sais pas si on peut dire moins entendues, mais ils ont pas la notion en fait du boulot et de l'effort qu'on a. Et le truc, c'est qu'on connaît un peu notre corps, on sait le boulot qu'on fait. Et donc quand on dit que là ça va pas, ça va pas. Donc voilà, mais après. Ouais, c'est d'être un peu plus entendu au niveau de la MSA. Enfin, moi, de mon expérience, du coup, c'est la prématurité qu'il faudrait mieux protéger. Okay. Et prévenir.
Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des femmes qui veulent s'installer agricultrices ?
Ben, réfléchissez à ce que vos conditions de vie que vous voulez. Si vous n'avez pas de gosse, ben, réfléchissez à quel moment vous allez en vouloir. Réfléchissez si la structure que vous allez monter, les cultures que vous allez installer vont vous permettre de dégager un peu de temps pour vous occuper de vos enfants, parce que si vous avez envie de vous en occuper, ou vous savez que vous avez les beaux-parents et les grands-parents et les parents qui sont à proximité, et vous allez pouvoir botter en touche de temps en temps pour refiler les bébés pour pouvoir dormir, vous reposer ou avancer sur votre boulot. En fait, essayez d'avoir une vision globale de votre entreprise, mais aussi, entre guillemets, de l'entreprise familiale privée que vous pouvez monter, en fait, avec si conjoint il y a ou pas, enfant ou pas, enfin voilà. Essayez d'avoir une vision un peu plus globale et essayez d'avoir une vision sur un projet long terme. C'est pas des décisions à court terme. Quand on met un gosse dans le jeu, c'est comme la vie, c'est pérenne.
Ah, moi, je suis hyper attachée à l'égalité homme-femme sur une ferme. Même travail, même salaire, même cotisation, même retraite.
C'était Elle est où la patronne sur CFM Radio avec Aurélie Ballaran, viticultrice à Sainte-Croix, dans le Tarn. Son conseil lecture, Le Gaillac, Vin des villes, Vin des champs. Un livre pour connaître le patrimoine bâti sur le Gaillacois. Elle est où la patronne, ça passe le mardi à 12h30, à 18h30, à 21h30, le samedi à midi et le dimanche à 17h30. I have a dream that one day, I have a dream someday.